France Inter. Le 7-10.
Elias Salamé, ce matin, vous recevez une actrice avec une majuscule.
Bonjour Juliette Binoche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une héroïne historique, un livre et une émotion, vous seriez qui? Vous seriez quoi?
Alors, j'ai joué George Sand, donc je pense à George Sand. Une émotion... Alors, aimer, c'est une énorme émotion qui se démultiplie à perpète, mais je sais pas, on va dire embrasser, dire oui, quoi. Et un livre, le dernier que j'ai lu, qui n'est pas encore paru, mais qui va être vraiment, pour moi, c'est un livre, une bombe, ça s'appelle La forteresse des âmes mortes, par Sandrine Chenivez, qui va sortir aux éditions Actes Sud, et que j'ai lu, et dont elle m'a demandé, c'est une amie, elle m'a demandé de faire la préface, et je trouve que ce livre est admirable, parce que c'est un voyage dans la Chine, et aussi un voyage intérieur, puisqu'elle va rencontrer des maîtres taoïstes, et donc et c'est bah, absolument
passionnant. On attend ce livre, on va le voir, on va le suivre. Ouais. Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse, disait Coco Chanel. Vous êtes d'accord avec elle?
Ah, c'est très beau, je trouve. Ouais, c'est une...
Oui, parce qu'elle a plein de citations assez dures, de formules, et elle a cette phrase que je ne connaissais pas et que je trouve très belle.
Alors, elle avait une relation avec Pierre Reverdy, qui était un grand poète de l'époque avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un poète dont elle aimait s'inspirer, et elle lui demandait aussi de lui écrire des choses. Donc, parfois...
Donc, peut-être que c'est Reverdy.
C'est un petit peu les deux, peut-être.
Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Coco Chanel, je vous la cite évidemment parce que vous l'incarnez dans The New Look, la nouvelle série de 10 épisodes signée Todd Adam Kessler, à voir sur Apple TV+. C'est une fresque captivante entre la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre qui suit plusieurs grands noms de la haute couture française dans le Paris de l'occupation, entre ombre et lumière, qui essayent de conserver leur rang, leur nom, leur maison de couture dans ce Paris allemand. Occupés, et puis leur réputation après la fin de la guerre, et on voit combien pour chacun ce fut compliqué, difficile, ambigu, combien ils ont dû faire des concessions à leur morale et à leur patriotisme. Alors on savait que Chanel avait eu une liaison avec un dignitaire nazi, mais on ne savait pas tout ce que nous révèle cette série. Vous avez été surprise, vous, de découvrir à quel point Coco Chanel avait été complaisante avec les Allemands, à quel point elle avait collaboré, tout simplement.
Oui, elle habitait, avant la guerre, elle habitait au Ritz. Et au moment quand les Allemands sont arrivés en France, elle est partie. Elle a fermé sa boutique. Elle voulait pas habiller les Allemands. Et puis son neveu étant prisonnier des Allemands en tant que soldat français, elle s'est embringuée dans des relations avec des collabos.
Voilà, c'est pour essayer de faire libérer son neveu.
Oui.
À l'origine, qu'elle considérait comme son fils.
Alors, il y a des personnes qui disent que c'était son fils, mais bon, c'est une vie qui est mystérieuse, Chanel,
mais c'est
parce
ça qu'on apprend.
Il y a plein de points de vue différents sur sa vie. Donc, quand on doit interpréter un personnage comme ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on a des faits qui sont très très négatifs et d'autres qui sont très très positifs. Donc c'est très difficile de savoir où, dans quel univers on rentre et quels sont les faits.
Mais vous saviez qu'elle avait à ce point, on savait tous qu'elle avait cette part d'ombre pendant la collaboration,
oui,
mais vous saviez qu'elle était à ce point, c'est ça qui est surprenant.
Oui, mais c'est pas surprenant quand on reprend sa vie et quand on connaît son enfance et tout ce qui s'est passé.
Voilà, vous dites qu'il faut retourner à son enfance et à ses souffrances
pour comprendre la personne, sinon comment l'interpréter aussi et comment la comprendre. Je crois qu'elle avait pas un sens moral du tout classique. Elle a compris que elle devait gagner sa vie, être indépendante, mais gagner sa vie pas juste pour avoir des sous, mais gagner sa liberté, gagner son bonheur. Et
vous dites très tôt, elle a appris à mentir, à cacher sa vulnérabilité, à cacher ses origines.
Ah bah, déjà en s'habillant d'une certaine façon, elle cachait tout. À partir du moment où elle était élégante et où elle s'habillait bien, déjà on pouvait croire qu'elle n'était pas la pauvre petite qui avait rien. Donc elle a compris qu'il fallait avoir une arme, un bouclier dans la vie pour être acceptée, qui était le vêtement, les bijoux. Et c'est pour ça qu'elle a intégré d'ailleurs des faux bijoux qui, pour elle, faisait croire
qu'elle avait de l'argent, qu'elle avait tout, alors que c'était juste des faux bijoux. En tout cas, on voit combien elle a peur de ne pas y arriver, elle a peur peur de perdre ce qu'elle a conquis. C'est ça aussi qui va l'amener à collaborer avec les Allemands.
Chanel, en fait, moi je pense, de ce que je ressens, c'est qu'elle voulait du luxe. Elle voulait, elle, c'est pas l'argent qui l'intéressait, c'était le luxe.
Donc l'apparence de l'argent.
C'est-à-dire de désirer quelque chose d'impossible. Et c'est là un petit peu la confrontation qu'elle a eue avec les Wertheimer, les deux frères qui étaient des industriels, qui avaient déjà un pied dans l'industrie cosmétique et ils se sont liés ensemble. Il faut quand même comprendre que à l'époque, quand ils ont signé le contrat, alors que c'était le nom Chanel, alors que c'était les créations Chanel, elle avait 10%, les Wertheimer avaient 70%, et le directeur des Galeries Lafayette, qui avait fait rencontrer les deux parties, avait 20%.
Ouais, elle avait que 10% de sa boîte.
Donc elle avait 10% de sa boîte, alors que c'était elle, et ensuite, pendant elle a commencé à faire un procès avant la Seconde Guerre mondiale, avant les Allemands, d'essayer de se servir des Allemands pour récupérer ses pourcentages, et en fait tout, elle voulait tout à un moment donné. Non, c'est vrai que quand on rentre dans son histoire, et dans la série, il y a un parallèle entre la vie de Dior et la vie de Chanel.
Et leur concurrence frontale. Qui, entre Christian Dior et Coco Chanel, sera le plus grand couturier de Paris dans les années d'après-guerre, justement.
C'est
ça. On voit
ouais,
ça 47, aussi.
Oui, oui,
ouais.
Oui.
Et elle disait, Dior, c'est l'extravagance, moi, c'est la simplicité, c'est mon style, la robe ne doit pas porter la femme, c'est la femme qui doit porter la robe.
Oui. Oui, il y avait un côté pratique chez Chanel. Il faut mettre un vêtement, c'est beau, oui, mais il faut pouvoir bouger dedans, il faut pouvoir être libre dedans.
Juliette Binage, je sais que vous avez lu énormément pour préparer ce rôle-là, pour rentrer, pour comprendre Chanel. Il n'y a pas beaucoup d'archives de Chanel. Alors, il y en a une.
Il y a beaucoup de bouquins, mais il n'y a pas beaucoup d'archives.
Ouais, mais il n'y a pas beaucoup, on l'entend parler. Il y a notamment cet extrait, une de ses rares télés, on est en 1959, où elle parle justement des femmes et de leurs vêtements.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ?
Hein ? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, comme on dit, je crois que c'est le don que je possède, enfin si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai.
J'aime Il faut savoir dans le corps humain ce qui bouge et ce qui ne bouge pas.
Ah oui, et le corps humain bouge tout le temps.
Le corps humain
bouge tout le temps. Oui, oui.
Alors, elle a plein d'aphorismes, de citations qu'on lui accole. Je ne sais pas si elle les a toutes prononcées. Je voulais vous tester sur 3 ou 4. Vous me dites si vous êtes d'accord avec Coco Chanel ou pas. Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge.
Ah oui, ça, je pense que c'est un fait.
Montrer ses cuisses, oui. Ses genoux, jamais.
Ouais, bon alors ça c'est une vue de l'esprit, mais
non, elle était obsédée par ça. Elle disait les femmes ne doivent pas montrer les genoux, ne doivent pas montrer leurs bras.
Oui, elle avait des idées bien précises sur ce qu'il fallait montrer ou pas. Ouais.
Elle a aussi dit la mode se démode, le style jamais.
Oui.
Et ça, on peut lui reconnaître qu'elle a toujours donné le style et que son style est toujours aujourd'hui en 2024. On continue de s'habiller comme elle et qu'elle a vraiment révolutionné la mode chez les femmes. Juliette Binoche, je ne peux pas ne pas vous évoquer avec vous cette interview fleuve très forte que vous avez accordée à Anne Diatkine, qui a été publiée le week-end dernier dans Libération. Vous y racontez calmement, avec une grande précision, ce que c'était d'être actrice dans les années 80-90 quand vous avez commencé. Et en vous lisant, on se dit que c'était vraiment une fosse au lion, que les jeunes filles, les jeunes actrices étaient vraiment réduites à leur corps, à leurs seins, à leurs fesses, à leur sexe. C'était vraiment ça, ce que vous appelez la marchandisation de mon corps.
C'est vrai que c'était... Déjà, quand on est actrice, jeune actrice, et qu'on ne sait pas comment réaliser ce rêve-là, on y va petit à petit, mais on fait face à des situations qu'on découvre, parce que qui peut savoir comment ça se passe? Et on est la seule ou le seul à croire à son chemin, parce que c'est pas un travail de fonctionnaire. On n'est pas, chaque jour est différent. On sait pas si le mois suivant on va avoir du travail. Donc c'est quand même il faut y croire très fort. S'il n'y a pas vraiment une foi totale, on peut pas résister à certaines demandes. Et dans les années 80-90, c'est vrai qu'il y avait, en sortant des années 70, il y avait une demande d'une certaine de la nudité dans les films. Et ça, je me souviens d'une conversation avec André Téchiné à l'époque, en 85, quand il m'avait dit qu'il ne voulait plus filmer les acteurs ou les actrices, enfin les actrices, que à la tête. Il voulait que le corps soit engagé. Ce qui est au départ plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on est entier. Donc c'est important de jouer entièrement. Mais il y avait quand même cette
obsession de la nudité. Vous racontez comment tout passait par des photos. Il fallait envoyer des photos de préférence nues aux réalisateurs pour qu'ils vous choisissent pour leur film. Vous aviez même transformé votre salle de bain en laboratoire pour développer vous-même vos photos de nues prises par votre copain.
Alors pas de nues, non,
c'était votre visage. D'accord, je me suis dit, elle est quand même allée loin.
Non.
Et puis quand même, vous expliquez globalement que la plupart des castings consistaient à jouer une scène nue en minaudant.
Oui, pas en minaudant. Non. Nu, en jouant vraiment, c'était le challenge. Mais pratiquement, à chaque scénario, il y avait une scène nue.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut
c'était
dire
parce que c'était vendeur.
Corps,
c'était
avoir
vendeur.
Un beau corps,
je
n'avais
pas spécialement un beau corps, mais il fallait se donner complètement.
Vous racontez l'intensité violente de votre histoire avec Léo Scarrax, les difficultés de tournage avec Jean-Luc Godard, avec Jacques Doyon, avec d'autres. Et puis, vous racontez tout, en fait. Les attouchements, ce baiser que tel réalisateur vous a imposé, cet autre qui vous a peloté de force dans votre loge. Mais vous dites, très vite, je disais non, ça suffit, j'ai mon amoureux. Vous avez eu le courage très vite de dire non là où
mais
d'autres...
J'ai dit la vérité, j'avais un amoureux, donc ça me paraît absolument impossible qu'on m'embrasse.
Oui, mais c'est vrai, vous étiez jeune comme d'autres, mais là où d'autres se sont laissés faire, vous avez mis les limites assez vite.
Oui, et puis il y en a d'autres qui ont mis plein de limites. Je crois que l'éducation est tellement importante. Moi, j'avais une mère qui m'avait... pas mis en garde par rapport à ça, parce qu'elle ne savait même pas que ça se passait comme ça dans le cinéma. Et quand elle a vu Rendez-vous pour la première fois, elle était vraiment étouffée. Elle était vraiment...
Ah, c'est un beau lapsus de vous voir
de
nue
voir.
Dans Rendez-vous de
oui,
Téchiné,
c'est ça.
Ce point nue. Elle ne pensait pas que c'était ça.
Oui, et elle était étonnée. Elle m'a dit comment t'as fait, et j'ai cru qu'elle m'admirait, mais en fait non, c'est qu'elle était horrifiée.
Aujourd'hui, les choses ont changé.
Oui et non, parce que moi j'ai lu un scénario il y a pas si longtemps, il y avait des descriptions de scènes de nues très très développées et je me suis dit, on n'en finira jamais quoi.
Ouais.
Alors je comprends la nudité parce qu'il y a un côté où il faut être vrai, mais après c'est comment c'est tourné, comment c'est filmé, c'est plus compliqué.
Vous avez une manière de parler de tout ça, de tout ce qui vous est arrivé. Évidemment, on le lit dans le contexte de MeToo, de tout ce qui se passe, du cinéma français qui est déchiré sur les affaires Depardieu, sur Gilles Godrèche et tout ça. Et on a l'impression que vous racontez les choses. C'est-à-dire, oui, ça c'est vrai, ça s'est passé, tout ça s'est passé, mais qu'il y a une forme de sérénité dans votre manière de raconter les choses. Comme si la rage avait été là, mais que, bon, voilà, ça participait du parcours qui vous a construit.
Oui, et puis on transforme les choses en soi. Et puis, au moment où on le fait, il faut que ce soit hyper clair en soi. Et je crois que c'était un don de moi. Je me donnais, j'étais au service de quelque chose qui était plus grand que moi. Et c'est ce que je dis dans l'article. Je plongeais dedans, la tête la première, parce qu'il n'y avait pas, je ne pouvais pas le faire autrement. Ou alors il fallait que je dise non au rêve que j'avais d'être actrice. Donc j'ai pas dit non, j'ai toujours dit oui. Et le fait d'être entière, c'est ce qui m'a sauvée en fait. Mais il y a eu tellement de trahisons aussi.
De trahisons,
parce que par exemple, je me souviens à la fin d'un tournage, c'était Breaking and Entering avec d'Anthony Minghella.
Ouais.
C'était le deuxième film que je faisais avec Anthony. Et
après Le Patient Anglais.
Après Le Patient Anglais, et il m'avait dit qu'il me montrerait les scènes nues, etc. Il m'a promis, et puis en fait, ça s'est pas passé.
Et vous les avez découverts à l'écran, quoi.
Je les ai découverts à l'écran et j'ai l'impression d'être trahie, mais sans arrêt d'ailleurs, on a le sentiment d'être trahie. Parce que, sauf parfois, où il y a une parole qui est tenue, on nous montre les choses, et parce que ils pensent, eux, à leur film, et puis il y a quand même l'idée de posséder chez le metteur en scène, de posséder les scènes qu'il a faites, de possession.
Et donc de posséder l'actrice qui
donne. Oui, et donc du coup de plus être dans le partage. Ils sont d'accord pour être dans le partage au moment où on tourne, mais après, c'est une autre histoire. Mais bon, à la fois, j'ai été un peu habituée comme ça, et il faut savoir lâcher le bateau. Hein. Il y a un moment donné, on sait qu'on a donné. Mais la seule chose, c'est que moi, j'ai jamais aimé être en contrôle comme actrice, parce que je trouve que c'est pas honnête, et qu'il faut savoir se donner complètement, et après, on prie, on espère que le metteur en scène aura l'œil, saura faire le bon choix, et on se dit, ah ouf, je suis pas toute seule dans la bataille.
Il y a cette tribune cette semaine, je sais pas si vous l'avez eue, parue dans Elle, 100 hommes qui manifestent leur soutien au mouvement MeToo, dont Jacques Audiard et Dakota
Ah bah ça fait du bien. Enfin, parce que c'est pas possible d'avoir que les femmes qui parlent.
C'est ce que disait Alexandra Lamy à ce micro il y a 2 semaines, qui disait « Mais où sont les hommes ?» Ça vous émeut carrément
Ah mais oui, parce que... parce que ça doit être reconnu. C'est pas reconnu, ça n'existe pas.
Donc vous attendez que les hommes, que les réalisateurs, que les acteurs
mais
prennent
oui,
enfin
mais
la
mais toutes
parole.
Les femmes attendent ça. C'est comme au moment des femmes iraniennes de couper les cheveux. Il n'y a pas un homme qui s'est coupé les cheveux. Je ne comprends pas ça.
Donc ça vous rassure un peu cette tribune des hommes qui enfin
mais
parlent.
Mais c'est une nécessité.
Comment vous expliquez ?
Sinon, il n'y a pas de changement.
Mais
sinon...
comment vous expliquez, Juliette Binoche, que ça date pas d'hier, MeToo, ça a commencé avec Harvey Weinstein, et puis ensuite il y a eu toutes
oui,
ces femmes.
Oui, mais ça prend vraiment maintenant, chez nous. C'est étonnant, il y a un décalage, et pourquoi pas, hein, de toute façon, il y a une société qui est prête ou pas prête, mais...
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu Judith Godrèche, d'autres femmes qui ont parlé, et les hommes... pas trop.
Alors moi, j'ai eu beaucoup de messages à la suite de ce témoignage d'hommes. J'ai eu que des réalisateurs hommes.
Après votre interview dans Libération,
oui.
Vous voulez dire.
Il n'y a pas eu d'actrice. Si, Anna Mouliali.
Anna Mouliali,
oui.
Mais il y a des hommes qui vous ont dit, t'as mis les mots, quoi. On avait
oui,
besoin
qui ont
savoir.
Été touchés, qui ont été... C'est arrivé à eux, quoi. Ils l'ont entendu. Mais c'est vrai qu'on a soif de ce... Parce que les hommes se sentent attaqués, ils se mettent les uns avec les autres en disant mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces bonnes femmes à parler tout d'un coup, on sent traqué et tout, mais c'est qu'ils se mettent pas à la place. Et quand même, en tant qu'acteur, on se met à la place. Quand on raconte une histoire, on se met à la place.
Les impromptus pour finir, vous répondez très très vite, on a 2 minutes. Dior ou Chanel? Dior, hein?
Non, il n'y a pas à choisir, chacun fait sa route et...
Ok, on choisit
ouais,
pas.
On choisit
la
pas,
danse non. Ou le théâtre?
Bah, comme vous voulez que je choisisse, c'est pas possible. En plus, je suis en train de monter un documentaire sur la.
C'est
sur
pour
la,
ça que j'en
pose. Spectacle de danse, non, c'est impossible de choisir.
Quelle mère êtes-vous, sévère ou cool?
Ah bah, c'est de toute façon, c'est être. Oh, c'est faire un équilibre, avoir un équilibre des deux, c'est difficile, hein, parce que cool, être cool, c'est pas forcément à l'arrivée être cool, et trop sévère, c'est pas bien non plus.
Entre les deux.
Bah ouais.
La dernière fois que vous avez pleuré, bon ben c'est là. quel est le plus bel âge de la vie?
C'est celui où on aime, on est vrai. Il y a pas d'âge pour. Ouais, c'est l'âge où on se sent relié. Ouais.
Et vous l'êtes là?
Oui.
On a l'impression que
oui. Oui.
Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
La délivrance. Il manque ce mot-là.
La délivrance, on prend. Question Jacques Chancel pour terminer. Et Dieu dans tout ça?
Et Dieu dans tout ça. Ouais. Ben, il nous écoute et on n'a pas toujours l'oreille assez fine.
The New Look, la nouvelle série de 10 épisodes à voir sur Apple TV+, avec une Juliette Binoche impériale en Coco Chanel. Merci à vous.
Beaucoup.
Belle journée.
Merci à vous aussi.